Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Vous entendez peut-être les cloches à l'heure actuelle. Nous sommes aux Invalides. Au Grand Homme, la foule reconnaissance. Des milliers de Français défilent, recueillis dans la cour des Invalides depuis plusieurs heures pour s'incliner un court instant devant le cercueil de Jacques Chirac. Édition très spéciale sur France Inter ce soir, des témoignages de sympathie pour celui qui aimait tant, du haut de son 1m90, se placer à hauteur d'homme, à portée de main. Des témoignages de respect aussi d'élus ou d'anciens ministres venus se fondre dans la foule pour saluer une certaine idée de la politique. Parmi eux, Hugues Ranson, le député LREM de Paris, il nous accompagnera dans ce journal. Une édition largement consacrée à cet homme rare, à un président défunt. Et puis nous irons également dans le journal à Rouen où finalement on apprend ce soir que toutes les écoles vont rouvrir demain. Mais pour l'heure, nous vous emmenons donc dans la cour d'honneur des Invalides. Nous sommes installés dans la coursive supérieure. Devant nous, depuis 14 heures, des hommes, des femmes de tout âge défilent. Ils traversent cette cour pavée si solennelle jusqu'à l'entrée de la cathédrale Saint-Louis. Quelques instants devant le cercueil recouvert d'un drapeau tricolore, il est à quelques mètres de nous. On prend des photos dans la dignité, leur ont demandé les agents d'accueil, comprenez pas de selfie. Et dehors, ils ont attendu 4-5 heures pour certains. Rémi Brancato, vous êtes avec ces anonymes, très patient, car plus que de l'admiration, Jacques Chirac a tiré la sympathie, Rémi.
Oui, cette foule dense, bigarrée, venue de tous horizons, attachée effectivement au personnage qu'était Jacques Chirac. Chacun y va de sa petite anecdote et on a le temps puisqu'il faut attendre jusqu'à 4 heures ici sur l'esplanade des Invalides au son depuis quelques minutes de cette musique militaire. Henriette Martiniquaise qui habite à Paris a pris de la lecture pour patienter.
C'est le journal de 1995. Parce que je l'ai conservé, j'ai été membre actif du RPR pour Jacques Chirac, malgré le temps, 3 heures d'attente. Je suis venue en souvenir. Ma meilleure femme de ménage, Jacques Chirac, lui a tendu la main. Ah, il nous a fait avoir un logement à l'époque.
À l'entrée des Invalides, on glisse ensuite une consigne. Restez décents, évitez les selfies, notamment devant le cercueil, car des photos circulent déjà sur les réseaux sociaux. Et une fois entré, c'est la voix de Jacques Chirac qui résonne.
Une nation, c'est une famille.
Des extraits de discours de l'ancien président dans la cour d'honneur des Invalides. Avant d'accéder au cercueil et à la sortie, c'est l'émotion.
Et dans la foule, Rémi, on estime que l'ancien président a fait œuvre de cohésion sociale, c'est ça ?
Photo de Jacques Chirac en grand.
Oui, effectivement, les anonymes qui se pressent ici ont tous une bonne raison de rendre hommage à Jacques Chirac, on l'a entendu, mais s'il faut trouver un lien, c'est sa capacité à faire cohésion dans la nation, c'est ce que retient Nawel qui est venu de l'Oise avec ses enfants et son mari.
On est d'origine maghrébine, forcément on se sent aussi concerné par la capacité qu'il a eue à faire passer cette image-là du monde musulman au sein des Français, une image très positif qui était pour nous importante. Alors j'ai expliqué à mon fils l'importance et l'impact que Jacques Chirac a eu en France lorsqu'il a refusé d'intervenir en Irak contre les Américains.
Alors pour Joël, venu elle du Nord près de Cambrai, le moment est historique et rare.
La cohésion entre les Français et la cohésion nationale était plus sensible, mais on s'en rendait peut-être pas compte. Maintenant, c'est un petit peu ça qui nous manque. Là, on a besoin de se ressentir ensemble, et je crois que là, il nous a un petit peu montré ça.
Le défilé des anonymes se poursuit dans le calme, ici, sur l'esplanade des Invalides, et pourrait durer une bonne partie de la nuit. Les grilles seront ouvertes, en tout cas, tant qu'il y aura des visiteurs, pour rendre hommage à l'ancien chef d'État.
Merci beaucoup Rémi Brancato avec François Rivalan, juste à l'extérieur des Invalides. Nous sommes à l'intérieur et donc Jacques Chirac, le populaire, le bon vivant, le spirituel aussi, ne l'oublions pas. Il a été accompagné en tout début de cérémonie par les hauts dignitaires religieux. À 14h, à la demande de la famille, les représentants des cultes ont commencé l'après-midi avec des chants à l'entrée de cette cathédrale des Invalides, juste devant nous, sous les yeux de Claude Chirac, la fille de l'ancien président, de Frédéric Salah Barrou, son gendre, et de Martin, son petit-fils. Côte à côte, Raïm Korsia, le grand rabbin de France, qu'il a visité ces derniers mois, Dalil Boubaker, l'évêque Jean-Yves Riocreux, le bouddhiste Chandaratana et François Claveroli, pasteur de l'église protestante de France.
Chacun des cultes a pu lire un des textes fondateurs de sa tradition. Ça a été très bref. J'ai lu un texte de l'évangile de Jean qui annonce la résurrection. Bon, Jacques Chirac était chrétien, Et dans l'ensemble des traditions religieuses, l'annonce de la résurrection fait partie de l'essentiel de la foi chrétienne.
À vos yeux, ce rendez-vous était important ?
Au regard de la grande culture du président Chirac et de son rôle qu'il a assumé dans le pays de nombreuses années, faisant droit à la nécessité du lien, la concorde entre tous les citoyens, du refus de la discrimination de tel ou tel culte, de son souci d'être vraiment dans l'unité du pays, j'ai pensé que c'était vraiment important qu'on soit tous là.
Ça lui ressemblait ?
Eh bien oui, écoutez, ça lui ressemblait, franchement oui.
Le pasteur François Claveroli au micro de Jean-Michel Naga. Et dans la foule, des politiques aussi cet après-midi se joignent à ces funérailles. Le service solennel rassemblera de nombreux élus demain, ainsi que le président Emmanuel Macron et des dirigeants étrangers. Mais certains ont voulu venir dès aujourd'hui à titre personnel pour se recueillir aux Invalides. Bonsoir Laurence Perron, vous
Bonsoir.
Êtes à mes côtés. Des anciens ministres, des élus, du nouveau et de l'ancien monde, Laurence.
Oui, alors on sait quand même que c'est Claude Chirac qui gère minutieusement toute cette séquence d'hommage. Elle est présente encore ici aux Invalides auprès de la dépouille de son père. On la voit venir régulièrement saluer les proches, les politiques qui après sont manifestement reçus dans une salle de cet hôtel des Invalides. On a vu Jean-Louis Debré, on a vu Philippe Douste-Blazy, on a vu aussi Cédric Villani, Benjamin Griveaux, les candidats concurrents à la mairie de Paris, Valérie Pécresse, la patronne de la région Île-de-France en grand manteau noir, tenait à être aux côtés des Français qui se recueillent ici.
Tous ces gens qui l'ont aimé, ces Français qui l'ont dans leur cœur et qui voulaient aujourd'hui faire des heures de queue pour lui dire au revoir. Et c'est très émouvant, il y en a qui chantent, il y en a qui se recueillent et ils sont très 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 émus.
Ce lien très particulier de Jacques Chirac aux Français, Frédéric de Saint-Cernin, qui était chargé des études d'opinion à l'Élysée, explique qu'il en a même parfois fait les frais.
Jacques Chirac avait cette relation directe parce que c'est un homme du terroir, il avait été élu. Et ce qu'il faisait de l'Élysée, parce que souvent on est déconnecté, c'est qu'il avait quelques personnes à qui il téléphonait, en particulier en Corrèze le dimanche. Comme ça, il avait quelques renseignements. On lui disait « Non mais là Jacques, tu as tort, ou j'ai entendu ça ». Bon, ça lui permettait d'avoir un pouls.
Gilles de Robien qu'on a croisé ici, l'ancien maire d'Amiens, ancien ministre de l'Éducation, s'enflamme. Jacques Chirac, ça n'est ni l'ancien monde ni le nouveau, c'est son futur.
Il était habité par la France, il avait la France dans le sang, il avait... mais en même temps il avait chaque individu dans le cœur. Et cette liaison-là, eh bien, il était, je pense, le seul, et il était en même temps, je pense, un exemple pour les générations à venir. Et puis peut-être un avertissement pour les jeunes. Faisons de la politique en aimant les gens, en aimant les autres.
Demain, c'est le monde entier, ancien, nouveau, futur, qui rendra hommage au président défunt en l'église Saint-Sulpice avant une cérémonie dans la stricte intimité au cimetière Montparnasse.
Merci beaucoup Laurence Perron. Et à nos côtés également ce soir, Hugo Ranson, bonsoir.
Bonsoir.
Vous faites le lien entre l'ancien et le nouveau monde. Alors vous êtes vice-président de l'Assemblée nationale, député de Paris, un très proche de Jacques Chirac. Vous le voyez encore ces derniers mois. Vous avez été le plus jeune conseiller de Jacques Chirac à l'Élysée. Cet hommage, ces gens que l'on voit juste devant nous dans la cour des Invalides, ça lui ressemble ?
Ça lui ressemble énormément. Moi, je suis très ému d'être ici aujourd'hui aux Invalides et de voir cette émotion populaire, cet hommage populaire. On est vraiment dans ce qu'était Jacques Chirac, une France rassemblée, diverse, respectueuse, quels que soient les endroits d'où viennent ces Français, quelles que soient les générations auxquelles ils appartiennent. Ce sont des gens qui viennent se recueillir parce qu'ils se reconnaissaient en Chirac. Chirac, c'était la France dans sa diversité, dans sa richesse, dans sa grandeur, peut-être aussi dans sa complexité, voire ses contradictions, mais c'était la France. Et l'hommage qui lui est fait aujourd'hui, très digne, populaire, très sobre, aussi est quelque chose qui, je crois, lui ressemble.
Vous vous attendiez à ce monde-là, ça ne désemplit pas, hein, devant nous, dans la cour des Invalides ?
Écoutez, je ne suis pas objectif, je n'en doutais pas, mais dans un moment où on est beaucoup à être triste, ça fait chaud au cœur parce que Jacques Chirac était un grand homme, Jacques Chirac était un grand chef de l'État, et pour moi il avait une place évidemment très particulière.
Aujourd'hui vous avez perdu quelqu'un de proche, plus encore qu'un exemple politique, qu'un modèle politique ?
J'ai perdu quelqu'un que j'ai accompagné professionnellement pendant 10 ans, avec lequel j'ai construit une relation d'abord professionnelle, politique.
Conseiller à l'Élysée, effectivement.
Voilà. Et puis j'ai eu le grand privilège, le grand honneur, au-delà de la confiance qu'il m'a accordée, de pouvoir pénétrer dans son intimité, de nouer des relations personnelles avec lui. Et voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, je perds plus qu'un ancien chef de l'État, mais il restera pour moi une figure, un repère dans ma vie politique, mais pas que, et une inspiration.
Vous êtes député La République En Marche aujourd'hui, vous êtes plus macronien ou chiracien ?
Non mais je suis chiracien, je l'ai toujours été, c'est ma vie, c'est mon engagement politique, il ne s'agit pas d'opposer les deux. Le monde dans lequel évoluait Jacques Chirac, c'est un monde, voilà, il a quitté la présidence en 2007, les choses ont beaucoup évolué depuis 2007, en 12 ans. Maintenant le message politique de Jacques Chirac, celui qui a été l'engagement de toute sa vie, c'est un message d'actualité. Jacques Chirac, il s'est engagé pour la paix, pour le dialogue des cultures, pour le développement durable et l'écologie, pour la cohésion sociale et la cohésion nationale. Ce message, en 2019, 12 ans après son départ de l'Élysée, est un message très contemporain, d'une particulière actualité. Et ce message, je me battrai pour le faire vivre parce que je suis absolument convaincu que c'est de ça dont le pays et dont le monde a besoin. Jacques Chirac, il était très attaché à un bon ordre du monde, à une régulation et à une humanisation de la mondialisation. Voilà, c'est des sujets qui, aujourd'hui, sont importants. Il y a le petit fascicule qui a été distribué aujourd'hui à tous les visiteurs, à tous ceux
à l'entrée, de la Cour des Invalides,
hommage, avec un certain nombre de discours, de phrases clés, de moments importants de ces prises de position. J'en lisais une juste avant de vous rejoindre sur ce plateau, sur l'état de la mondialisation, une mondialisation où le libéralisme à outrance vient accentuer des fractures entre les plus riches, qui sont de moins en moins nombreux, et les plus pauvres, qui sont de plus en plus nombreux. Voilà, le message de Jacques Chirac, c'est un message très important à comprendre sur le temps long. Il avait une conscience
du temps. Et compatible avec le macronisme, aujourd'hui ?
Bien sûr, compatible avec le macronisme. Mais
le macronisme n'est pas un anti-chiracisme.
Non, et puis il ne faut pas, certainement pas voir les choses comme ça. Maintenant, le chiracisme est d'actualité. Le chiracisme est contemporain. Ensuite, le chiracisme, attention, parce que Jacques Chirac, et pour en avoir longuement parlé avec lui, moi qui me définis et qui me définissais à ses côtés et auprès de lui comme chiracien, il m'a toujours dit non mais le chiracisme ça n'existe pas, il ne comprenait pas ce que c'était au fond, parce que c'est un homme qui n'était pas un homme dogmatique, c'était pas un homme qui était plongé dans l'idéologie et ce n'était pas un homme qui par ailleurs souhaitait laisser une trace dans l'histoire. Il voulait être pragmatique, avancer au service des Français, avancer aussi avec une vraie conscience de l'histoire du pays, des territoires, de ses fractures, de ses fragilités, et puis avancer en ayant cette conscience assez atypique dans le monde politique, du temps long. Vous savez, il avait sa petite sacoche sur lui avec une fiche qu'il avait toujours et qu'il promenait sur lui, qui était une fiche avec des grandes dates de l'humanité, les grandes dates de l'évolution de l'humanité qu'il avait toujours sur lui et qu'il consultait régulièrement. Cette conscience du temps long et des risques qui pèsent sur l'humanité, sur l'avenir de la planète, sur le choc des civilisations qu'il a récusé, voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspiré, quelque chose que je ferai vivre dans mon engagement politique maintenant que j'ai la responsabilité d'être élu.
Est-ce qu'il y a également un point commun entre Emmanuel Macron et Jacques Chirac dans cette conquête du pouvoir, cette façon d'aller attraper des mandats par tous les moyens, un peu à la hussarde?
Là encore, je pense qu'il faut se garder de toute comparaison. Maintenant, il y a des qualités personnelles qui sont partagées par les deux présidents. L'audace, sans aucun doute. La conquête, que vous qualifiez de à la hussarde, pourquoi pas. Le courage, l'énergie, sans aucun doute. Jacques Chirac avait, au-delà de ses grandes qualités politiques, des qualités personnelles absolument exceptionnelles. On parle beaucoup de sa chaleur humaine, de son empathie, de son humour. C'était réel, ce n'était pas fin, ce n'était pas du théâtre, c'était une réalité humaine. C'est quelqu'un qui accompagnait ses proches dans la douleur, dans la difficulté, dans les moments heureux aussi. Il m'a accompagné dans les moments importants de ma vie et je crois qu'il ne l'a pas fait qu'avec moi et c'est de cela aussi dont les Français parlent aujourd'hui en se recueillant en sa mémoire.
Et cette foule que l'on voit devant nous, hein, ici dans la Cour des Invalides, nombreuses, on parle beaucoup de la défiance envers les politiques. Vous pensez que des figures comme ça peuvent montrer que les Français ne sont pas complètement fâchés avec leur politique ?
Je pense que les Français ne sont pas fâchés. Je souhaite que les Français ne soient pas fâchés avec leur politique. Maintenant, Jacques Chirac, c'est un modèle atypique. 50 ans d'engagement public avec un homme qui a été à la fois député de Corrèze, maire de Paris, deux fois Premier ministre. Voilà, ce n'est plus possible dans le monde aujourd'hui. Mais l'inspiration qui doit être la nôtre aussi, dans le message de Jacques Chirac, c'est d'abord le fait d'avoir toujours su prendre les bonnes décisions, même lorsqu'elles ne venaient pas de sa propre famille ou qu'elles n'étaient pas conformes à sa sensibilité. Il a fait l'IVG, il a soutenu Simone Veil en tant que chef de gouvernement sur la question de l'IVG. Il a voté pour l'abolition de la peine de mort en 1980. Il a décidé d'apporter son soutien à l'adhésion du traité de Maastricht. Ce sont des grands moments de la vie politique où il fallait basculer du bon côté et où sa famille politique n'était pas forcément unie pour basculer à ses côtés du bon côté. Et donc, voilà, ça fait partie aussi de l'enseignement qu'on doit avoir. Jacques Chirac a toujours su dépasser son propre clivage, sa propre appartenance partisane pour pouvoir faire les bons choix. Et le message, puisqu'il faut en avoir un, c'est son message de 2007 quand il a quitté l'Élysée. Son dernier message aux Français qui est, là encore, particulièrement d'actualité. Il a quitté la présidence de la République en leur disant quatre choses. Ne composez jamais avec l'extrémisme, et l'extrême droite notamment, et c'est particulièrement d'actualité aujourd'hui. Il leur a dit aussi, soyez toujours fiers de la France. Vous vivez dans un grand pays et soyez-en fiers. Le troisième message de Jacques Chirac, c'est de porter une attention importante, quotidienne, aux personnes en situation de vulnérabilité, et c'est le message de cohésion sociale et de solidarité. Et le quatrième message qu'il adressait en 2007, c'est l'attachement à l'idéal européen. Il nous demandait d'y être fidèle. Ces quatre grands messages, je crois, là encore, devront vivre dans les prochaines années.
Merci beaucoup, Hugues Ranson, d'avoir été avec nous ici pour cette édition un peu particulière en direct de la Cour des Invalides. Je rappelle que vous êtes vice-président de l'Assemblée nationale et député de Paris, et vous serez demain aux cérémonies, aussi en l'église Saint-Sulpice, demain avec les autres élus qui seront là dans un décor beaucoup plus protocolaire. Merci à vous.
Merci.
Le Premier ministre aussi a profité de ce dimanche de deuil avant les cérémonies protocolaires pour saluer celui qui a été également son prédécesseur à Matignon. C'est beau, mais c'est loin, a dit Édouard Philippe en paraphrasant Jacques Chirac en arrivant à l'université d'été du Modem à Guidel dans le Morbihan, et de citer ensuite un autre monument national populaire à la tribune.
La vérité, c'est que nous avons tous, nous Français, quelque chose de Jacques Chirac. Et quand je dis cela, je le dis avec une admiration profonde, mais aussi avec beaucoup de lucidité. Jacques Chirac n'était ni un saint, ni un homme parfait. Derrière la truculence et la chaleur réelle, il y avait la dureté et la capacité à trancher. Il avait pris la décision de mettre dans sa vie publique les mains dans le cambouis pour essayer d'avancer. La perfection et la pureté ne sont pas des critères qu'on peut lui opposer, mais le réalisme, l'intérêt de la France. Parce qu'il était amoureux de la France et de ses concitoyens. Parce qu'il avait, selon la formule que je trouve belle, un ami dans chaque village. Voilà pourquoi nous retrouvons tous, à un moment ou un autre de sa vie ou de ses choix, quelque chose qui nous touche.
Édouard Philippe à l'université du Modem à Guidel dans le Morbihan. Et vous l'entendez peut-être, il y a du vent ici dans la cour des Invalides, dans cette coursive où nous nous trouvons pour cette édition spéciale du 19h de France Inter. Et devant nous un défilé ininterrompu devant donc dans cette cour d'honneur au son des discours de Jacques Chirac qui sont diffusés juste à l'entrée, au son aussi de la musique que le chef de l'État adorait, les suites de Bach au violoncelle de Rostropovitch. Alors les Invalides vont rester ouvert tard, certainement, pour permettre à chacun de se recueillir quelques secondes devant ce grand cercueil à quelques mètres de nous, recouvert du drapeau tricolore sous une photo d'un Jacques Chirac souriant. Et demain, les obsèques nationales. Jeanne Dossé, bonsoir.
Bonsoir.
Dites-nous, comment vont se dérouler les cérémonies demain ?
Eh bien, ça commencera par une séquence totalement privée, une messe pour la famille Chirac. L'hommage public, lui, débute à 11h moins le quart dans la cour des Invalides avec un hommage militaire en présence d'Emmanuel Macron. Il y aura une minute de silence, puis la Marseillaise retentira. À 11h, le cercueil de Jacques Chirac quittera les Invalides direction l'église Saint-Sulpice, car depuis son incendie, Notre-Dame de Paris ne peut toujours pas accueillir de messe, mais la cathédrale sonnera le glas. Le convoi funéraire de l'ancien président passera devant le musée qui porte aussi son nom sur le quai Branly. Pendant ce temps, les officiels arriveront à l'église Saint-Sulpice, les membres du gouvernement, les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, mais aussi une trentaine de dirigeants étrangers, dont le président russe Vladimir Poutine et le premier ministre libanais Saad Hariri. 15 minutes avant la cérémonie, arrivée des trois présidents de la Ve République encore vivants, François Hollande, Nicolas Sarkozy et Valéry Giscard d'Estaing. Ils seront suivis par Emmanuel Macron. Le cercueil de Jacques Chirac arrivera peu avant le début de la messe qui sera célébrée à midi par Monseigneur au Petit. Dans l'après-midi, Jacques Chirac sera inhumé au cimetière du Montparnasse, aux côtés de sa fille Laurence, dans l'intimité familiale.
Merci beaucoup Jeanne Dossé. Cette information de Maxence Lambrec. Marine Le Pen ne se rendra pas à la cérémonie demain à l'église Saint-Sulpice, ni aucun autre député RN. Des cérémonies à suivre dans une édition spéciale de France Inter dès 11h. On vous donne rendez-vous également demain à 8h20 dans la matinale. François Hollande sera l'invité du grand entretien de la matinale. Et pendant que la foule continue de défiler et d'attendre son tour pour rendre un dernier hommage à Jacques Chirac devant son cercueil ici aux Invalides, Eh bien, je tenais à remercier Hélène Langlois qui nous a aidé à faire cette édition bien particulière du 19h de France Inter. Mais à la une également ce soir de l'actualité, nous allons à Rouen où toutes les écoles vont rouvrir demain, Mariam El Kurdi.
Oui, tout à fait. Plusieurs écoles avaient fermé après l'incendie jeudi de l'usine Lubrizol à Rouen. Il fallait d'abord qu'elles soient nettoyées, qu'il n'y ait plus de traces de suie pour pouvoir rouvrir. C'est donc le cas ce soir. Par ailleurs, les dernières analyses révèlent que l'atmosphère est normale et habituelle, mais l'inquiétude demeure dans l'agglomération de Rouen, notamment chez les agriculteurs inquiets des conséquences économiques. Dans les 112 communes de Normandie, ils ne peuvent plus commercialiser leur lait produit. Dans son arrêté, la préfecture impose que le lait soit consigné par l'exploitant. Les producteurs se voient donc privés de revenus. Théophile Pedrola.
Dans la ferme de Stéphane Donquel à Cattenay, toutes les vaches laitières sont rentrées sous abri. Depuis ce matin, ils continuent à les nourrir, mais tout leur lait est jeté. Un crève-cœur pour ce producteur.
Aujourd'hui, je perds 700 euros par jour. Le lait est une denrée périssable, on le jette. On traite, le temps dans lequel on stocke théoriquement pour 3 jours, il se trouve plein. Et si on veut continuer à traire, il faut bien qu'on le vide. Donc bah là, on jette puisque les laiteries ne viennent pas le chercher.
C'est l'une des premières demandes des agriculteurs, que les laiteries viennent chercher le lait stocké, même s'il n'est pas mis sur le marché. Bruno de Fromerie possède 150 vaches laitières dans le pays de Bray. Depuis ce matin, il s'est habitué à un nouveau geste.
On ouvre la vanne et la vanne va directement dans les fosses à lisier.
Ce qui pourrait devenir un problème environnemental, il souhaite que le lait soit enterré.
C'est un cercle sans fin. Si on le met dans une fosse, notre lait sera remis sur nos pâtures ou sur nos terres et du coup, on recommence le même problème. Personne n'a été vraiment bien averti. Hein, et tout le monde appelle un peu tout le monde et aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'il faut faire.
Les agriculteurs doivent maintenant attendre les conclusions des analyses réalisées ce matin dans des fermes témoins. Conclusion attendue pour la fin de semaine prochaine.
Théophile Pedrola est dans cette affaire. Édouard Philippe promet de faire la transparence totale sur cet incendie dont on ne connaît toujours pas les causes. Les plaintes se multiplient également, des plaintes y compris en dehors de Rouen, selon le procureur de la République. Au moins une dizaine jusqu'à présent, une vingtaine probablement, de plus demain, selon un avocat rouennais. Y a-t-il des dysfonctionnements au SAMU de Mulhouse? Une information judiciaire est ouverte pour non-assistance en personne en danger. Une femme de 60 ans est morte d'un arrêt cardiaque. 10 jours avant, elle avait appelé le SAMU de Mulhouse. Souffrant de douleurs au thorax et au bras gauche, aucune équipe de secours n'était intervenue. Ce soir, la direction explique que le médecin régulateur a pris une décision médicale après avoir échangé au téléphone avec cette patiente. Mais cette affaire n'est pas la première. 2 plaintes ont été déposées en 2 ans contre le SAMU de Mulhouse. Dans les 2 cas, les appels des victimes au secours n'auraient pas été pris au sérieux. L'un des patients est décédé, l'autre, Christophe Musselin, a de graves séquelles. Son histoire fait écho à cette dernière affaire, Lucille Guillotin.
Quand Christophe Musselin apprend le décès de cette femme à Mulhouse, il n'en croit pas ses oreilles.
J'ai été révolté parce que ma démarche n'a servi à rien, a priori, puisque le SAMU de Mulhouse n'a tiré aucune leçon de ce qui m'est arrivé à moi.
Cet habitant de Wittelsheim a échappé de peu à la mort. C'était le 28 mai 2016. Ce jour-là, il appelle le SAMU à 2 reprises pour des douleurs à la poitrine. Le médecin régulateur lui conseille de prendre du paracétamol et n'envoie pas d'ambulance. Mais Christophe Musselin se sent trop mal. Il prend alors le volant, il s'arrête à la clinique du diaconat à Mulhouse. Là, il est opéré d'un infarctus du myocarde. Il en garde de graves séquelles. Par la suite, il a réussi à contacter le médecin du SAMU. Ce dernier lui expliquait que ce jour-là, il était tout seul pour gérer les appels des 2 départements alsaciens. Christophe Musselin a déposé plainte il y a 2 ans, mais depuis, rien n'a bougé.
Pire encore, la plainte est restée, ignorée parce que aujourd'hui, on n'a aucune nouvelle de l'affaire. On nous dit simplement que l'affaire est en cours et on ne nous apporte aucun autre élément de réponse. Il faut absolument faire quelque chose. C'est pas normal qu'aujourd'hui, après des appels à des SAMU dans des situations aussi préoccupante, rien n'est fait et que les gens décèdent.
Il espère que cette nouvelle affaire au SAMU de Mulhouse permettra de relancer son dossier.
Lucille Guillotin pour France Inter. Direction l'Autriche maintenant, où les électeurs étaient appelés aux urnes pour des législatives anticipées. Et ils plébiscitent largement ce soir le jeune leader conservateur Sébastien Kurz, selon les projections des médias autrichiens. Le leader du EVP sera donc à nouveau chancelier d'Autriche. Bonsoir Louise Baudet.
Bonsoir.
Vous êtes en direct de Vienne. Le parti d'extrême droite, le FPE, avec qui il avait fait une coalition jusqu'à l'affaire de l'Ibiza Gate, semble vouloir renoncer au pouvoir en revanche.
Effectivement, désavoué dans les urnes, l'extrême droite se retire du jeu. Nous n'avons pas le mandat pour entrer dans un nouveau gouvernement. Déclaration ce soir du FPE qui prend acte du désaveu des électeurs écœurés par les scandales éclaboussants, ceux-là même qui promettaient de nettoyer le paysage politique. Le parti doit se refonder, déclarent ses responsables sur les plateaux télé. Une cure de jouvence de l'extrême droite dans l'opposition, hypothèse privilégiée ce soir par les commentateurs autrichiens qui tablent du coup sur une coalition des gagnants, les conservateurs d'un côté, qui derrière Sébastien Kurz remporte pour leur 37% des voix. 4 points de plus que ce que leur promettaient les sondages. Et puis les écologistes qui, avec 14% des voix, progressent de 10 points par rapport aux dernières législatives à l'issue d'une campagne dominée par l'enjeu climatique. Alors il faut encore que ces résultats soient confirmés et les tractations s'annoncent ardues, tant les divergences sont grandes entre les conservateurs et les verts sur l'environnement et l'immigration. Prudent, Sébastien Kurz s'en tient ce soir à des généralités, mais le mot climat prend une nouvelle dimension ce soir dans les déclarations de ses proches, tandis que les écolos réclament à l'ex-futur chancelier un changement de cap radical.
Merci Louise Baudet en direct de Vienne pour France Inter. L'actualité sportive de ce soir, ce sont les mondiaux de cyclisme en Angleterre, à Harrogate. Une course marquée par la victoire d'un Danois, c'est une première. C'est Mats Pedersen, 23 ans, qui porte le maillot arc-en-ciel ce soir, devant l'Italien Matteo Trentin et le Suisse Stefan Kung. La journée a été longue et difficile, 6h30 de course sous la pluie. Bonsoir Fabrice Rigobert.
Bonsoir.
Alors de nombreux favoris ont abandonné, d'autres dont le français Julien Alaphilippe sont allés jusqu'au bout de leurs forces sans pouvoir lutter pour la victoire.
Oui, il est descendu du bus de l'équipe de France quelques minutes après s'être réchauffé sous la douche, les yeux rougis, gonflés comme s'il sortait d'un ring de boxe. Il craignait la pluie, le froid. L'homme du mois de juillet qui a porté le maillot jaune 14 jours sur le tour a vu ses espoirs noyés par les trombes d'eau qui ont accompagné le peloton sur les routes sinueuses du nord de l'Angleterre, entre les pâtures à moutons verdoyantes enserrées de leurs murs de pierre. Julien Alaphilippe, incapable de suivre l'attaque de Mathieu Van Der Poel, le petit-fils de Raymond Poulidor, à 32 km de l'arrivée.
Les courses difficiles, ouais, j'en ai déjà fait, mais celle-ci, je pense que on va s'en souvenir. C'était vraiment une journée de souffrance, comme rarement j'en ai eu depuis le début de ma carrière. Donc voilà, vraiment aucun regret. J'ai encore froid. Ça fait un moment que j'ai passé la ligne, mais j'ai encore froid. Donc voilà, je sais que c'est pas vraiment les conditions que je préfère. Quand il fait froid, qu'il pleut beaucoup. Je m'attendais à souffrir comme ça aujourd'hui, mais là, ouais, j'ai craqué à la pédale, comme on dit. Hein. Il y a pas d'excuse.
28e place pour Julien Alaphilippe derrière son compatriote et équipier modèle Tony Galopin, 23e. Le visage noirci par les heures passées dans les gerbes d'eau. Une journée dantesque qui a aussi eu raison de Mathieu Van Der Poel, champion du monde de cyclocross, que tout le monde voyait gagner au moment de son attaque avant qu'il ne s'écroule à 12 km de la ligne, victime d'une fringale. Un favori à terre comme Philippe Gilbert ou encore Alejandro Valverde avant lui. À Harrogate, Fabrice Rigobert, France Inter.
Et en football, 8e journée de Ligue 1, Strasbourg a battu Montpellier 1-0. Saint-Etienne a battu Nîmes 1-0. Prochain match Marseille qui va jouer à 21h. Allez, on va tout de suite aux Invalides à Paris. Bonsoir Rémi Brancato.
Bonsoir.
Les anonymes continuent d'affluer pour rendre hommage à Jacques Chirac. Il y a toujours beaucoup de monde ce soir.
Oui, la file d'attente est toujours impressionnante ici sur l'esplanade des Invalides. Il faut attendre 3 à 4 heures. Beaucoup de Français sont venus de région uniquement pour l'événement, pour l'hommage à l'ancien président. Et après leur passage dans la cour d'honneur des Invalides, très solennel, chacun fait part de son émotion.
Nous venons nous recueillir devant la tombe de Monsieur Jacques Chirac. Il y a une très belle photo de Jacques Chirac en grand qui nous salue de la main et qui vous dit à bientôt. C'est très émouvant.
Je suis heureux d'avoir pu contribuer à cet hommage collectif. J'ai signé un petit mot et je suis parti. J'ai dit tout simplement « Notre cœur brûle pendant que vous êtes ailleurs ».
Une référence évidemment aux paroles célèbres de Jacques Chirac sur l'environnement. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs en 2002. Des extraits de discours de l'ancien président sont d'ailleurs diffusés. La grille des Invalides restera ouverte tard s'il le faut. En tout cas, tant qu'il y aura des visiteurs cette nuit.
Merci Rémi Brancato en direct des Invalides donc, et les hommages continuent demain donc avec cette cérémonie officielle à Saint-Sulpice en présence d'Emmanuel Macron et en présence d'une trentaine de chefs d'État et de gouvernements étrangers. Ce soir, on apprend que Marine Le Pen ne se rendra pas à cette cérémonie. En revanche, je vous le disais, une trentaine de chefs d'État et de gouvernements étrangers ainsi que les trois présidents de la Ve République qui sont encore vivants, François, les trois ex-présidents de la Ve République qui sont encore vivants, François Hollande, Nicolas Sarkozy et Valéry Giscard d'Estaing. Cérémonie donc à midi en l'église Saint-Sulpice à Paris et une émission spéciale à suivre sur France Inter dès 11h45 sur notre antenne.
Point route avec les cours Legendre. Cours à domicile, stages de révision et cahiers de vacances par des professeurs de l'éducation nationale. Info, cours-legendre.fr.
La route, c'est avec vous, Diane Sprimon. Bonsoir.
Bonsoir.
Ça bouchonne sur la 10.
Eh oui, vous roulez très doucement de Dourdan jusqu'à Janvry. Il y a à peu près 15 km de bouchons en direction de la capitale. Toujours sur la 10, soyez prudents. Il y a un accident à hauteur de Janville et Allen sur la bretelle de sortie. Et c'est encore rouge hein, ce soir sur la 7. Il y a des bouchons à la sortie d'Orange en direction de Valence sur 5 km.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R la mondiale. Via Santé, la mutuelle qui aide ses adhérents à prendre soin de leur santé. Et vous, comment ça va ?
Et on regarde la météo avec Jean-Michel Golinski.
Ce lundi, si l'on accepte l'arrivée d'un temps de plus en plus gris l'après-midi sur la Bretagne, la Basse-Normandie, les Pays de la Loire et d'un peu de pluie sur le Finistère, la journée sera placée sous le signe de l'accalmie, sous un ciel variable sur la plupart des régions, avec passé la mi-journée une alternance de nuages et de coins de ciel bleu, dans une ambiance toujours plus limpide sur les régions méridionales. On notera un vent d'ouest sensible sur les côtes varoises et les Cap Corse, également un Mistral à 40 km à l'heure en moyenne vallée du Rhône et des rafales vers 70 sur la pointe ouest à l'arrivée de la pluie. Les températures avec 9 à 18 degrés au lever du jour et 18 à 28 de l'après-midi du nord vers le sud restent au-dessus des moyennes.